7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de la rentrée scolaire en Afrique. Pas encore effective dans la plupart des pays. Les enfants, les familles, les enseignants attendent. L'école est devenue l'un des plus gros enjeux du continent à l'heure actuelle avec la crise économique. Il faut rappeler que finalement avec le Covid-19, les écoliers subsahariens ont été les plus touchés. La majorité d'entre eux n'a pas pu bénéficier de l'apprentissage à distance. Alors après des mois sans école, quelles vont être les conséquences de la pandémie sur la déscolarisation, sur le niveau des élèves? Quels risques pèsent en particulier sur les filles? Les parents vont-ils les sacrifier au profit des garçons si l'argent manque à la maison? Et puis pour l'avenir, l'école en Afrique doit-elle évoluer en profondeur après le choc du confinement? Ça fait beaucoup de questions. Les parents, les enseignants, vous avez bien sûr la parole dans cette émission, comme tous les jours. Vous nous appelez, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous dès maintenant pour nous parler de ce qui vous préoccupe par rapport à la rentrée scolaire dans votre pays sur le continent africain. 33 7 64 45 51 41, c'est le nouveau compte WhatsApp. Allez, je vous le redonne. 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous envoyer des messages écrits. On sera en direct avec deux ministres de l'éducation, Willy Bakonga en RDC, Daouda Marté au Niger, des pays où la pandémie a enfoncé encore des systèmes scolaires déjà fragiles, défaillants. Nous sommes aussi en direct dès maintenant avec Nesmi Maniga. Bonjour.
Bonjour, bonjour Daniel, bonjour à tous, à toutes.
Nesmi Maniga, vous appartenez au Partenariat Mondial pour l'Éducation, le PME. Vous êtes président du comité de gouvernance et d'éthique. Et vous avez aussi été ministre de l'Éducation en Haïti, qui connaît des problèmes similaires à certains pays du continent africain. Kofi Seignac-Beto est également avec nous de Dakar. Bonjour Kofi Seignac-Beto.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous appartenez à l'UNESCO, très précisément à l'Institut international de planification de l'éducation, où vous êtes analyste des politiques éducatives. Et tous les deux, évidemment, depuis la pandémie, vous auscultez d'encore plus près ce qui est en train de se passer dans les pays les plus en difficulté pour la scolarisation. On attend vos appels, les parents, les enseignants, mais pourquoi pas aussi les lycéens. Hein, 33 7 64 45 51 41.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
C'est Tandia Zeynab, j'ai 12 ans, je suis à Cotonou, précisément au Bénin. Je voudrais vous parler de mon année scolaire. Je l'ai finie en beauté, on a composé, on a eu les résultats. Ensuite, je suis passée en 5e. Et je suis impatiente de commencer la rentrée le 28 septembre. Et concernant la Covid-19, j'ai pas peur parce que je sais que si je respecte les gestes barrières et les restrictions, je serai pas malade. Merci, bisous.
Ah bah ça fait du bien d'abord d'entendre une ancienne de l'école à la radio pendant des mois où nous avons fait l'école sur RFI chez 7 milliards de voisins, Zeynab, qui nous a posté ce message WhatsApp pour témoigner. Ça fait du bien aussi d'entendre peut-être un message positif parce qu'il y a beaucoup de questions inquiètes à propos de la rentrée scolaire sur le continent africain. Peur de la pandémie pour Saboura Raphaël qui est à Cotonou également au Bénin comme Zeynab. Il est artisan teinturier, il a 8 enfants. Deux de mes enfants attendent la rentrée du 28 septembre. L'un entre en 5e, l'autre en 4e. Et moi, je suis inquiet sur la façon dont ils vont être protégés du Covid-19 pour ne pas nous contaminer, nous les parents. Et puis, il y a Ababakar aussi, N'Djamena en Tchad, qui redouble sa première S au lycée. Il nous dit qu'il était un élève moyen en première S et le confinement ne m'a pas aidé, nous dit Ababakar, parce que je n'ai pas réussi à rattraper le retard. La première S, c'est sérieux. alors j'ai préféré redoubler. Je retourne au lycée le 15 octobre. La rentrée est prévue effectivement au Tchad en octobre. Et puis également, un auditeur qui nous appelle en direct, Bayaki Alomé, au Togo. Bonjour Bayaki.
Bonjour Emmanuel.
Alors Bayaki, comment vous appréhendez cette rentrée scolaire c'est pour vos neveux, vos petits frères, c'est ça?
Oui, mes neveux, mes petits frères, exactement.
Ouais.
J'ai hâte que la rentrée reprenne vite.
Mm-hmm.
Puisque j'ai constaté une baisse considérable dans leur éducation. La lecture, même l'écrit, tout va mal. Tout va mal.
Tout va mal, c'est-à-dire?
Oui, j'ai constaté que la COVID-19 a vraiment abaissé le niveau qu'ils avaient quand ils allaient à l'école. Depuis que les vacances sont arrivées, il n'y a même plus d'études. Ils s'amusent à chaque fois, ils essayent de les motiver les samedis. Mais vraiment, je n'y arrive plus.
Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous constatez précisément quand vous dites qu'ils n'ont plus le niveau?
Ce qu'ils avaient l'habitude de faire pendant les petits problèmes qu'on leur donnait, puis ils faisaient ça avec gaieté. Quand vous leur redonnez maintenant, c'est difficile. Ils n'arrivent plus à comprendre. Pour eux, c'est juste s'amuser. Même la lecture, l'écrit. Écrire même, ça devient un problème. Ce n'est même plus sur la ligne. Tout est vraiment...
Ah oui,
pas quoi dire.
Ils n'écrivent plus sur la ligne. Écrire devient un problème, nous dites-vous.
Oui, voilà.
J'ai le sentiment que finalement, vos petits frères, vos neveux dont vous vous occupez ont perdu le goût d'apprendre, c'est ça finalement?
C'est ce que je crois, c'est ce que je crois. Et il faut l'école pour vraiment les remotiver.
La rentrée est bien prévue chez vous le 26 octobre, si je suis bien informée. On a essayé d'obtenir un peu des dates de rentrée pour l'ensemble du continent, c'est pas
je
évident.
Je me suis renseigné si c'est le 26 octobre.
Bon, alors vous êtes confiant? Ils vont remonter la pente?
Oui, je crois, oui, je suis confiant. Parce que s'ils reprennent, vu leur niveau d'avant, ils étaient intelligents, pas qu'ils n'étaient pas intelligents, mais c'est dû vraiment à cette situation. Et j'ai hâte qu'ils reprennent. S'ils reprennent, les choses vont s'améliorer.
Merci à vous, Bayaki, en tout cas, de nous avoir téléphoné. Très bonne journée à vous, à Lomé, au Togo. Et vous continuez, les voisins, les voisines, de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Alors, on est en direct avec vous, Nesmi Maniga, Kofi Séniak-Beto. La plupart des pays ont annoncé une rentrée, grosso modo, en octobre, après des mois sans école. Déjà, on se demande finalement pourquoi la classe ne reprend pas plus tôt pour essayer de rattraper, alors que les familles disent « bon, ben là, ça ne va plus, quoi ». Nesmi Maniga.
Je pense que la situation n'est pas unique au niveau de tous les pays. Parce que si on constate bien la situation des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et les ministres qui sont présents vous le diront, je pense qu'il y a eu un effort, même après le mois de mars, où la pandémie a été déclarée, où les enfants sont revenus timidement, surtout les classes d'examen, pour boucler l'année scolaire antérieure, parce qu'il restait très peu de jours. Mmh. On a mis le focus un peu sur les plus âgés, ceux qui pouvaient mieux éventuellement résister. Donc, beaucoup de pays ont pu boucler relativement l'année scolaire. Effectivement, comme vous dites, on se prépare à une rentrée pour certains mi-septembre, pour beaucoup le mois d'octobre, mais c'est inégal, parce que vous avez aussi dans certains pays, je prends l'exemple du Kenya, c'est l'année blanche.
Année invalidée, donc, c'est une... pas de rentrée du tout, absolument. Effectivement, tout le monde reprend à la rentrée suivante.
Donc, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que jamais la communauté internationale de l'éducation n'a eu à gérer une pandémie de cette nature. On a sûrement géré des épidémies régionales comme Ebola, dans mon propre pays Haïti, on a géré le choléra, où on a pu gérer chikungunya un peu partout, mais une épidémie qui a affecté près d'un milliard d'apprenants, c'est ce qu'il faut bien comprendre, je pense que ceci est tout à fait inédit. Et aujourd'hui, il est très clair qu'il n'y a pas de solution parfaite, donc ce sont des défis éducatifs sans précédent que pose Covid-19, et qui appelle aussi des solutions innovantes sans précédent. Et vous parlez des problèmes de calendrier scolaire, c'est effectivement grave ce qui est en train de se passer.
Et les pays, on le sent bien, pilotent à vue. Hein, le Rwanda a renoncé à la rentrée de septembre. On ne sait pas quand les écoles vont rouvrir, par exemple. Selon la Banque mondiale, les fermetures d'écoles pourraient entraîner des pertes de revenus de 4 500 $ par enfant. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Ben, écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études, et y compris une étude récente de la BAD, la Banque africaine du développement, qui a fait des simulations et a trouvé effectivement quand vous avez des familles, quand vous avez des enfants qui ne vont pas à l'école et qui régressent, comme les parents viennent de dire, en termes de compétences cognitives de base, de lecture, d'écriture, de calcul et tout ça. Donc cela se traduit selon les modélisations par une perte de compétitivité, une perte de productivité au point de vue du capital humain, et à ce moment-là, il y aura davantage de difficultés pour que ce qui est attendu de l'école, la main-d'œuvre, les compétences telles qu'elles sont attendues, telles qu'elles sont planifiées, telles qu'elles sont calculées, arrivent à faire face aux réalités du marché du travail. Donc on régresse tant au niveau scolaire, on régresse en termes de la capacité des systèmes scolaires à produire une main-d'œuvre qualifiée, et quand on fait ces différents calculs, ça redonne un peu ce scénario-là.
Kofi Seniak-Beto, vous qui travaillez pour l'UNESCO, il y a eu des expériences qui ont été répertoriées par les organisations internationales d'enseignement à distance. Les pays se sont quand même, globalement, compte tenu de leurs faibles moyens, beaucoup mobilisés pour faire de l'école à la radio, à la télévision, pour mettre en place des plateformes Internet. Est-ce que ça limitait les dégâts?
Oui, effectivement, comme mon collègue du Partenariat mondial de l'éducation l'a souligné, c'est une crise sans précédent qui a surpris tout le monde, y compris les plus hautes autorités de l'éducation. Et cependant, ils ne se sont pas laissés faire, ils ne sont pas restés bras croisés. Ils ont redoublé d'inventivité pour s'adapter assez rapidement à la situation. Et c'est ainsi que l'enseignement à distance, qui n'était jusqu'alors pas considéré véritablement au sein des systèmes éducatifs africains, a été massivement adopté par beaucoup de gouvernements et beaucoup de pays, et cela est à saluer. Il y a toute une panoplie hein, de médiums auxquels les gouvernements se sont adonnés, et grâce aux nouvelles technologies, les gouvernements ont très vite adapté la situation pour prendre en compte, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, les classes d'examen et les enfants les plus âgés. Alors, s'il faut citer ici la radio, nous sommes sur une radio, la radio a été très sollicitée en Afrique. Vous savez que la radio est le médium le plus répandu ici sur le continent. Et il y a la télévision et puis il y a bien sûr Internet qui malheureusement ne touche que la classe urbaine favorisée.
Alors, ceci dit, quand on parle d'enseignement à distance via Internet, c'est vrai qu'il y a eu les programmes du Sénégal Apprendre à la maison, il y a eu en Côte d'Ivoire École fermée, cahier ouvert, mais il faut quand même être réaliste, sur le continent africain, il y a des problèmes d'électricité, les zones rurales, au mieux, un quart de la population a accès à l'électricité, sans parler des connexions Internet, 22% de la population sur l'ensemble du continent, sans parler du manque d'ordinateurs, même d'ailleurs pour les enseignants, nous-mêmes. Il nous arrive de contacter des enseignants lorsque l'on faisait l'école à la radio. Ils nous disaient qu'ils n'avaient pas d'ordinateur pour préparer des leçons, etc. Et pour faire de l'école à la radio. C'est vrai aussi qu'ils se sont mobilisés massivement, créant des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, pour rester en contact avec leurs élèves. Mais pas tous. Et évidemment, ça ne remplace pas une journée d'école. Je voudrais qu'on parle des filles, parce que le temps passe vite dans cette émission. Nesmi Maniga, Kofi Seniak-Beto, est-ce que les filles vont manquer à l'appel à la rentrée, les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme et disent qu'elles pourraient être les grandes sacrifiées de cette rentrée scolaire en Afrique.
Si je peux me permettre de revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accès à ces médiums-là, il faut dire que nous sommes sur un continent en Afrique subsaharienne où 9 apprenants sur 10 n'ont pas accès aux ordinateurs. Et parmi les 10% qui ont accès aux ordinateurs, il y a 8 qui, 8 sur 10, qui n'ont pas d'abonnement à Internet. Donc, c'est assez limité. Et pour revenir à la question précisément de la crainte d'accès des filles à l'école, enfin à la rentrée scolaire, c'est malheureusement quelque chose qui est vrai et nous avons tous lu tous les témoignages qui venaient de beaucoup de pays, surtout au niveau de l'enseignement secondaire, les filles en pleine adolescence qui malheureusement du fait de la fermeture des écoles sont tombées enceintes et qui malheureusement ne pourront pas accéder à l'école. Ceci dit,
Vous parliez des grossesses, justement, je voudrais vous lire le message d'un auditeur qui a posté ceci. Serge, il est en RDC à la frontière avec l'Angola. Il nous dit, à cause de la pandémie de coronavirus et la fermeture des écoles, en effet, beaucoup de filles sont aujourd'hui enceintes. Moi, je suis étudiant à la faculté de psychologie au département de sciences et de l'éducation. J'en ai rencontré certaines. Elles m'ont dit que c'est l'école qui les protège. Il faut rouvrir les écoles car les filles sont vraiment très vulnérables, sans éducation. Nesmi Maniga, on a vu aussi dans le passé, vous citiez l'épidémie Ebola en Sierra Leone, où les grossesses des filles adolescentes avaient explosé à cause de la fermeture des écoles au moment de l'épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crainte non seulement de grossesses adolescentes, mais aussi tout simplement de filles privées d'école parce que l'argent va manquer à la maison et qu'on ne pourra pas scolariser tous les enfants?
C'est un grand sujet de préoccupation et aujourd'hui. Vous savez, avec Covid-19, c'est une grande opportunité pour réinventer nos écoles, nos systèmes éducatifs, mais c'est aussi une très grande menace de voir s'aggraver les inégalités sociales et les disparités en termes d'équité. Et parmi les groupes vulnérables, il est évident que les filles en font partie. Je pense qu'au niveau du Partenariat mondial pour l'éducation, on a eu un grand souci, effectivement, c'était de nous assurer que personne ne manque à l'appel lors des rentrées. Mais on sait très bien, pour les problèmes que vient d'évoquer effectivement mon collègue Kofi de l'UNESCO, on sait très bien que parmi les groupes les plus vulnérables, que les filles seront une fois de plus dans beaucoup de pays d'Afrique, comme vous avez dit, les sacrifiés de ceci, non pas seulement en termes de grossesse. Je pense qu'on a parlé aussi, c'est une crise qui a bousculé beaucoup de choses, y compris les revenus des familles les plus pauvres. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement les gouvernements doivent faire face à une demande de financement additionnel pour mettre en équilibre les systèmes éducatifs, mais les familles aussi sont sollicitées davantage. Et le Covid-19, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, ce n'est pas qu'une crise scolaire, c'est aussi une crise économique, parce que beaucoup de circuits de production économique ont été suspendus. Donc les parents à faible revenu se retrouvent encore davantage exposés. Et on sait très bien comment ça se passe, en général, en Afrique ou ailleurs. C'est quand c'est l'aide publique au développement qui ne vient pas à la rescousse, quand ce n'est pas les diasporas internationales qui ne viennent pas à la rescousse, ce sont les parents qui doivent faire face à ceci. Et aujourd'hui, vous avez bien dit, il y a des arbitrages malheureux qu'on va devoir faire, que beaucoup de parents vont devoir faire, en choisir entre les filles et les garçons, qu'est-ce qui est économiquement plus rentable pour eux à court terme, sur leur vision, sur leur culture. Il y a des risques énormes sur les filles et on doit être très attentif à ce que surtout cette cible-là ne va pas les rentrer.
En fait, donc, les élèves qui étaient déjà en situation les plus fragiles vont se retrouver en grande difficulté et les pays les plus fragiles aussi, dont les systèmes scolaires étaient les plus fragiles, vont se retrouver encore davantage en difficulté. Puisqu'on parlait des filles, je voudrais aussi qu'on donne la parole à un lycéen, un garçon, Noël. Vous êtes en ligne avec nous de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Noël.
Salut Emmanuel.
Salut, bienvenue Noël. Vous nous avez prêté main forte pendant l'école à la radio au début de l'été. Vous avez 20 ans, vous êtes non-voyant Noël et vous êtes extrêmement inquiet pour votre rentrée scolaire en terminale. Vous voulez absolument passer votre baccalauréat.
Oui, effectivement, puisque en Afrique, au Burkina précisément, je ne sais pas, et les handicapés, ils souffrent vraiment, ils sont délaissés concernant comment faire pour scolariser les élèves. Donc, on est laissé, même plus que l'État, on n'a pas une école spécifique pour les handicapés. Voilà, donc déjà, ce sont des établissements privés. Donc, chacun fixe son prix qu'il veut maintenant pour la rentrée. Donc, ça nécessite vraiment des sommes faramineuses pour être scolarisé.
Combien vous payez pour une année, Noël, au lycée, vous, élève non-voyant?
Pour être honnête ici, pour payer minimum ces 100 000 francs CFA. C'est le minimum.
Combien vous pouvez répéter ?
100 000 francs CFA.
5 000 francs CFA.
Ça, c'est le minimum.
Ça fait une dizaine d'euros.
Voilà.
Pour l'année.
Bien, oui.
Et pourquoi vous pensez que vous n'aurez pas cet argent pour la rentrée ?
Bon, du moment où et tu vis avec des parents qui n'ont pas, qui ne sont pas quand même aisés, qui ne peuvent pas assumer, et assurer la, pas ta scolarité, également la scolarité de certains de tes frères.
Vos parents sont décédés, je crois que c'est votre oncle, hein, jusqu'à maintenant, qui payait votre scolarité.
Oui, effectivement. Ouais. Voilà, j'ai vu avec mon oncle qui paye ma scolarité. Mais maintenant, lui aussi, il a ses enfants. Et avec le poids de l'âge également, il n'a pas un bon travail comme cela.
Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément prioritaire parce que, comme vous dites, il a ses enfants. C'est un peu, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans une fratrie, il y a les prioritaires et puis les autres. Hein. Les garçons, peut-être, seront prioritaires sur les filles. Les enfants seront prioritaires sur ceux qui sont accueillis dans une famille. C'est tous ces arbitrages hein, dont nous parlait Nesmi Maniga, l'ancien ministre de l'Éducation en Haïti et actuellement au Partenariat mondial pour l'éducation. Merci Noël d'avoir été en ligne avec nous. On va accueillir des ministres de l'Éducation qui vont nous dire aussi comment ils préparent la rentrée scolaire dans leur pays respectif, en RDC, au Niger. Et bien sûr, vous continuez de nous téléphoner sur notre nouveau compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. On se retrouve dans quelques minutes. De voisins, on est en direct et nous discutons de la rentrée scolaire qui se prépare sur le continent africain, largement repoussée au mois d'octobre pour la plupart des pays. Après des mois sans école, comment se présente la rentrée chez vous ? Vous avez évidemment la parole si vous êtes parent, enseignant, lycéen. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse du niveau des élèves ? Comment rattraper aussi le temps perdu ? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous discutons de tout cela avec deux experts, Nesmi Maniga du Partenariat mondial pour l'éducation, le PME qui rassemble les fonds nécessaires pour soutenir les politiques éducatives les plus en difficulté, qui est aussi ancien ministre de l'éducation en Haïti. Kofi Seniak-Beto, analyste des politiques éducatives à l'UNESCO. Et nous donnons aussi la parole à des acteurs de l'éducation. Nous sommes en ligne avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la RDC, République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Bakonga.
Bonjour, madame.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous chez 7 milliards de voisins. Pouvez-vous, monsieur le ministre Willy Bakonga, nous confirmer la date de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo ?
Oui, la rentrée scolaire prochaine est fixée au 5 octobre 2020. Et vous savez que c'est dans un contexte très particulier que nous allons procéder à cette rentrée. Je suis convaincu que beaucoup de parents seront exigeants et seront poussés à inscrire leurs enfants seulement dans des écoles où les règles d'hygiène sont rigoureusement observées. Et à l'opposé, certaines écoles seront dépeuplées. Les chefs d'établissement d'enseignement sont appelés à être créatifs afin de s'adapter à la nouvelle donne.
Alors,
aujourd'hui, sincèrement, nous, le gouvernement, nous prenons quand même toutes les mesures barrières pour empêcher la propagation de la maladie en milieu scolaire.
Si je vous comprends bien, vous dites aux parents, ne mettez pas vos enfants dans l'école habituelle publique, par exemple, si les mesures barrières, si les mesures sanitaires ne sont pas au rendez-vous.
Mais oui, mais ça c'est évident, puisque vous savez, les parents redoutent cette maladie, cet assassin impitoyable qu'est la COVID-19, qui a endeuillé, n'est-ce pas, le monde entier. Les parents ne peuvent pas exposer leurs enfants. Je pense que c'est logique que les parents mettent les enfants dans des écoles qui prendront quand même toutes les mesures pour éviter l'expansion de la maladie, pour éviter d'exposer leurs enfants à la maladie.
La logique aussi, en général, malheureusement, c'est que ce sont les écoles privées qui sont les mieux équipées sur le plan sanitaire, de l'hygiène. Que font les parents s'ils n'ont pas l'argent pour payer des écoles privées plus encadrées ?
Mais vous savez, il y a une migration scolaire. Donc les enfants quittent les écoles privées d'abord, puisque chez nous, il y a le président de la République qui a mis le pays, qui a remis le pays d'ailleurs sur l'orbite
de la
gratuité de l'enseignement pour l'école primaire.
Sur tout le territoire.
Oui, sur tout le territoire national. Et cela a quand même occasionné une migration scolaire. Beaucoup de parents des écoles privées se sont vus quand même dans l'obligation de mettre leurs enfants dans les écoles officielles pour bénéficier de cette gratuité, puisque c'est cette réforme importante qui a remis, n'est-ce pas, beaucoup d'élèves sur le chemin de l'école. Nous comptons plus ou moins 4 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école.
4 millions d'élèves donc supplémentaires encore attendus à la rentrée. Ça risque d'être compliqué, non, en termes logistiques, ou bien vous tablez sur des élèves qui ne seront pas là pour des raisons économiques?
Non, mais ce qui est vrai, que le gouvernement est en train de prendre les dispositions, malgré la situation un peu difficile sur le plan financier, ça il faut le savoir, qu'il y a des conséquences un peu néfastes dans le monde entier d'ailleurs, ce n'est pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. La COVID-19, cette maladie a impacté négativement sur les finances publiques, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une volonté clairement exprimée par les présidents de la République et même du Premier ministre de commencer déjà à construire quelques écoles en prévision, n'est-ce pas, de cette augmentation exponentielle des élèves, n'est-ce pas, dans
quelques écoles. Il en faudra beaucoup pour 4 millions d'élèves. En tout cas, vous nous dites que l'éducation va demeurer prioritaire. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous a posté la question suivante sur notre compte WhatsApp. Je rappelle, le compte WhatsApp chez nous, c'est le numéro suivant 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez nous appeler aussi en direct. Écoutez cet auditeur Pascal qui est à Bukavu.
Bonjour, c'est Mère de Voisin, c'est Pascal, j'ai 28 ans, j'habite à Bukavu, République démocratique du Congo. Il y a de cela 3 semaines, le ministre avait annoncé la reprise des cours pour les degrés terminaux. Mais les élèves qui se trouvaient en 5e, 4e primaire et ceux des humanités, comment est-ce qu'ils vont passer la classe? Il y a de cela 2 jours, on a entendu parler à la radio, à la chaîne nationale, que les enseignants vont commencer à faire la moyenne pour des élèves qui ont réussi au premier semestre. Et ceux qui ont échoué au premier semestre, ils vont redoubler la classe. Et ceux qui ont réussi, ils vont monter. Imagine-toi, si quelqu'un a échoué au premier semestre, il peut se rattraper au second semestre. Mais on n'arrive pas à comprendre ces phénomènes-là. C'est ce qui inquiète mes parents, parce qu'on a 2 élèves Et on a une fille qui est en cinquième, il va entrer en sixième. On a un garçon qui est en troisième, il va entrer en quatrième. Comment est-ce qu'ils vont monter la classe s'ils n'ont pas terminé l'année?
Oui, voilà les préoccupations de Pascal pour ses petits frères et sœurs, se baser sur le premier semestre. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir davantage de redoublements, ce qui veut dire aussi un surcoût pour votre budget, monsieur le ministre Willy Bakonga?
Oui, cette question a été diversement commentée par les partenaires éducatifs. Et d'ailleurs, les discussions sont déjà en cours pour trouver des solutions idoines par rapport à cette épineuse question des classes montantes. Mais la vérité, c'est que très bientôt, le gouvernement va donner sa position. Est-ce qu'il faut faire la moyenne de points et récupérer peut-être le premier mois de la reprise de la rentrée scolaire pour éviter la distorsion des connaissances par les élèves? C'est ça une option? Ou bien nous sommes en train de voir au niveau du gouvernement, il faut remettre les enfants sur les chemins de l'école, reprise de cours pour les classes montantes. Et ils doivent faire
et
aussi
espérer
un mois
que les élèves rattrapent aussi quand ils passent dans la classe supérieure. Parce qu'un autre auditeur nous a posté le message suivant. Son enfant en première année de primaire n'a pas fini d'étudier l'alphabet après la lettre K. Il reste beaucoup de lettres, hein. Il ne les connaît pas, la suite. Et il va passer en classe supérieure sans avoir le niveau. Alors,
oui,
c'est,
mais
soit
c'est ça,
l'embouteillage...
C'est ce que je suis en train de dire, là.
Oui, oui.
C'est ce que je suis en train de dire, madame. Que si aujourd'hui, on enlève l'option de faire la moyenne des points pour les classes montantes, nous serons obligés de récupérer le premier mois, d'ailleurs, de la rentrée scolaire, pour revenir sur les matières non vues, pour éviter, comme je l'ai dit, la distorsion des connaissances, puisque les enfants doivent être en mesure de défendre, n'est-ce pas, la classe montante. Et puis là, ils doivent avoir le maximum de matières possibles. Donc, ce sera rattrapé, on va récupérer, n'est-ce pas, les matières qui n'ont pas été enseignées à cause de cette cruelle maladie.
Donc vous nous dites que ce sera rattrapé dans le courant de l'année, hein, si j'ai bien compris.
Oui,
du
oui.
côté des enseignants, est-ce que tous les enseignants vont être payés? On parlait de 130 000 enseignants non titulaires qui n'étaient pas payés jusqu'à maintenant.
Oui, il y a un travail qui a été fait et le gouvernement de la République est très conscient que ces metteurs de scène qui sont les enseignants doivent être payés puisqu'il y a la gratuité de l'enseignement. Au départ, les parents étaient soutenus par la motivation, les enseignants étaient soutenus par la motivation des parents, mais aujourd'hui, comme on a supprimé tout ça, il est très important que le gouvernement paye ces enseignants-là, et il y a un travail qui a été fait d'identification de ces enseignants qu'on appelle ici communément « nouvelles unités ». Et très bientôt, le gouvernement va prendre les mesures pour prendre en charge, n'est-ce pas, cette catégorie d'enseignants.
Nesmi Madiga, du Partenariat mondial pour l'éducation, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, notamment sur les besoins de financement dans un pays aussi immense que la RDC concernant cette scolarisation particulière au temps de la pandémie?
Et la RDC, c'est un pays qu'on observe de très près, parce qu'il faut savoir que quand même, dans une décennie, c'est un pays qui a passé de 9% de son budget et sur l'éducation. Aujourd'hui, ça tourne autour de 20%, donc il y a eu d'énormes progrès à ce niveau. Mais ceci, le ministre l'a bien exprimé, il y a encore des besoins extrêmement pressants qui se font sentir. On sait très bien les disparités qui existent, notamment en zone rurale. Et au niveau du Partenariat mondial pour l'éducation, justement, nous venons d'approuver un financement dans notre cadre de réponse accélérée au COVID-19 d'environ 15 millions de dollars pour la RDC. Donc, ceci, c'est un appui par rapport à l'effort des finances publiques, mais nous gardons toujours le curseur sur un élément qui est très important. Nous continuons d'encourager l'ensemble des pays à investir au moins 20% de leur budget pour quand c'est possible, hein. Au niveau de l'éducation, on verra très bien avec le Niger qui nous a parlé tout à l'heure, avec les difficultés de sécurité publique, comment l'effort à faire sur l'éducation peut évoluer en dents de scie. Mais il est très clair, que je comprends très bien ce que dit M. le ministre, il y a énormément de pression sur les finances publiques, il n'y a pas que l'éducation, il y a la santé. Donc, ceci demande vraiment des arbitrages qui sont extrêmement critiques.
Quelle est la route qui reste à parcourir pour parvenir à 20% du budget de l'État consacré à l'éducation, Monsieur le ministre Willy Bakonga, en RDC?
Je suis très...
juste un chiffre, juste, positif. Monsieur le ministre.
S'il vous plaît.
Juste un chiffre, est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle quelle est la route qui reste à parcourir pour qu'on arrive à 20% du budget de l'État dépensé pour l'éducation? Vous êtes à combien à l'heure actuelle?
Non mais à l'heure actuelle, nous sommes déjà à 17%.
Donc, d'accord.
N'eût été la pandémie, on serait déjà très loin puisque je vous ai dit qu'il y a une volonté clairement exprimée par le gouvernement. Puisque l'éducation, c'est un secteur important et nous devons consacrer tout ce que nous avons de mieux pour l'éducation de nos enfants.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas.
La relève de ce pays. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Willy Bakonga, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo. Très bonne journée à vous à Kinshasa. Nesmi Maniga, Kofi Seniakbeto, vous restez avec nous. Nous accueillons maintenant le ministre Daouda Marté au Niger, ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour madame.
Monsieur Marté, est-ce que vous pouvez nous confirmer vous aussi la date de la rentrée scolaire chez vous au Niger?
Oui madame, la rentrée est prévue pour nous le 1er octobre 2023 à Dieu.
Comment vous préparez cette rentrée parce que votre pays est confronté à une urgence éducative sans précédent, plus de 3,5 millions d'enfants exclus de l'école à cause de la pandémie et aujourd'hui, alors où est-ce que vous en êtes?
Je dois un peu rectifier pour dire que nous ne sommes pas exclus en tant que tels parce que voilà ce qui s'est passé du fait de l'expansion de cette maladie. Le 20 mars 2020, nous étions dans l'obligation de fermer les écoles, et cela pour 72 jours. Le 1er juin passé, nous avons repris le cours pour achever le programme de l'année le 15 juillet. Actuellement, les enseignants et les élèves sont présentement en vacances. Voilà ce que je voudrais dire.
D'accord, donc il y a eu 6 semaines d'école à la fin de du confinement, des couvre-feux. Et là, on est bien dans une période normale de vacances scolaires. Quelles sont les difficultés que vous attendez pour la rentrée? Parce que début 2020, on avait déjà plus de 2,5 millions d'enfants nigériens, donc avant la pandémie, hein, qui n'allaient pas à l'école pour toutes les raisons que l'on sait, démographiques, économiques, sécuritaires. Est-ce qu'à la rentrée, le nombre d'enfants déscolarisés risque d'être encore plus important?
Il risque d'être plus important parce que, tout à l'heure, vous avez vous-même dit qu'il y a 200 000 qui ne partent pas. Selon les statistiques, on a chaque année, normalement, 800 000 enfants qui devraient rentrer à l'école, en classe préparatoire, première année CI. Mais il se trouve que nous ne recrutons que 600 000. Lié au fait que la situation économique ne permet pas de prendre en charge l'ensemble de ces écoles-là, de ces élèves-là. Cette année, nous avons encore eu d'autres difficultés liées en partie à une insécurité dans la partie ouest, à la frontière Mali-Burkina, mais aussi et surtout à des inondations. Il n'est un secret pour personne que les émissions sont passées sur RFI, que le Niger a connu une période d'inondation très importante et la situation que j'ai actuellement, nombreuses sont mes classes qui se sont effondrées, ce qui fait que nous avions effectivement fixé la rentrée pour le 1er octobre, mais certainement dans d'autres écoles, la situation risque d'être décalée au moins d'une quinzaine de jours afin de se préparer et surtout en matière d'infrastructure. Sinon, nous allons prendre toutes les dispositions pour que la rentrée se fasse sans problème. Je dois ajouter que l'État a mis beaucoup de moyens, notamment 21% de ses ressources dans le domaine de l'éducation, tout secteur confondu, afin de prendre la charge de la scolarisation de nos enfants. Tout à l'heure, j'ai parlé de 600 000 qui devraient être inscrits. Regardez, madame, si même nous prenions sur une base très théorique, c'est 600 000 enfants.
Oui.
Dans une classe en moyenne de 40 élèves. C'est 600 000 élèves. Si on les répartit dans la classe théorique de 40 élèves, nous aurons besoin de 15 000 salles de classe. 15 000 enseignants.
On est en train de faire la division en même temps que vous. Hein, 600 000 divisé par 40. On se croirait à l'école à la radio. Mais vous avez raison. Hein, vous avez raison de faire des calculs. Alors, il vous faudrait donc combien de classes et d'enseignants?
En moyenne, tout à l'heure, j'ai parlé de ces 15 000-là. Naturellement, ce chiffre diminue si on tient compte des élèves en fin de cycle qui doivent aller, par exemple, au collège, ou d'autres qui n'avaient pas pu achever leur scolarité. Mais bon an, mal an, on a un besoin net par an de 5 000 enseignants, 5 000 salles de classe pour prendre en charge au moins les 600 000 élèves.
Ça veut dire que chaque année, vous avez besoin de 5 000 enseignants supplémentaires et 5 000 salles de classe supplémentaires.
Supplémentaires.
C'est-à-dire que vous faites face à une poussée démographique à laquelle vous ne pouvez pas répondre en réalité.
Pour l'instant, c'est ça malheureusement la situation dans laquelle nous sommes.
Le Niger bénéficie d'une aide d'urgence de la part des bailleurs.
Oui. Et que je profite pour saluer notamment le Fonds commun, le Partenariat mondial de l'éducation, l'UNICEF, la Banque mondiale, ils sont nombreux au plan international, c'est le Children World Vision, Éducation Canouette. Ils sont nombreux les partenaires qui interviennent, tant dans la formation de nos enseignants, certains dans la construction de nos classes, et aussi la formation des fournitures. Ils sont nombreux, effectivement, ceux qui ont intervenu aussi dans le cadre de COVID-19, de la COVID-19, pour essayer de nous appuyer afin de trouver une solution la meilleure, particulièrement en termes de comment est-ce qu'on appelle ça, de prévention. On a acheté, n'est-ce pas, des dispositifs de lavage des mains, des gels, des masques. Ils sont nombreux, nos partenaires qui ont intervenu dans ce secteur-là, afin que le cours se poursuive sans grande difficulté. Et c'est pour cela même qu'au niveau, par exemple, du primaire, nous n'avions pas eu d'attaque des élèves durant les 45 jours de cours, de reprise de cours après Covid.
Merci beaucoup Daouda Mamadou Marté d'avoir été en ligne avec nous pour vos précisions, la clarté de vos explications aussi. Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation au Niger et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Il ne faut pas l'oublier. Merci infiniment et très bonne journée à vous. À Niamey, monsieur le ministre. Merci.
Merci à RFI aussi de nous avoir appuyé. Dans le cadre surtout de l'éducation à distance, je vous remercie, madame.
Et on l'entend en tout cas, les pays les plus fragiles sont mobilisés sur cette rentrée scolaire qui s'annonce compliquée, d'autant plus que pour ce qui est de la zone sahélienne, on avait près de 8 millions d'élèves qui étaient déjà exclus de l'école pour la région du Sahel, du fait de l'insécurité, des écoles fermées parce que les enseignants ne voulaient plus y enseigner, que c'était pas suffisamment sûr. Nesmi Maniga et Monsieur Kofi Seignac-Beto, je parle sous votre contrôle. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur ces pays les plus fragiles sur le continent africain?
Oui, merci Emmanuel et merci au ministre.
Rapidement,
de la
DC. Il nous reste très peu de temps, Kofi.
Et du Congo et du Niger, excusez-moi. Oui, c'est des défis énormes pour ces pays-là. Le ministre de la RDC a rappelé le défi du financement. Il faut bien sûr que le gouvernement fasse des efforts, mais il y a aussi il faut qu'il y ait une part plus grande du gâteau soit dédiée à l'éducation, mais il faut que le gâteau lui-même s'élarge. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernements soient en mesure d'élargir leur base fiscale pour avoir assez de ressources sur lesquelles ils vont prélever pour financer leur éducation. Il faut peut-être à la rentrée élargir le soutien scolaire parce qu'une grande partie des élèves n'ont pas eu accès aux cours et donc les gouvernements doivent généraliser le soutien scolaire, ne serait-ce que pour remettre à niveau les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de l'enseignement. Il faudra une troisième proposition, c'est de renforcer la législation pour mieux protéger le retour à l'école des filles, surtout les filles mères qui, malheureusement, bon nombre d'entre elles sont tombées enceintes et sont devenues filles mères. Donc, il faut les protéger, il faut faire en sorte que ces filles retournent à l'école. Donc, ça constitue des défis énormes pour les gouvernements et il faudra qu'ils redoublent de créativité pour pouvoir faire face à ce défi commun auquel nous faisons face tous.
Repenser peut-être aussi un peu l'école. Nesmi Maniga, vous êtes là en tant que bailleur de fonds, mais vous avez aussi été ministre de l'Éducation en Haïti. Je voudrais que vous savez qu'on a énormément de voisins et de voisines qui nous écoutent à Port-au-Prince et pas seulement dans les autres villes d'Haïti. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur la situation de votre pays pour ce qui est de la rentrée scolaire. Votre pays avait déjà une scolarisation en dents de scie du fait des crises économiques et politiques et surtout aujourd'hui, quelle est l'urgence finalement pour tous ces pays pour traverser la pandémie et parvenir à améliorer l'école?
Je pense que pour Haïti, aujourd'hui, pour faire très simple, hein, les lycéens sont dans les rues, ils réclament des enseignants, parce que le budget de l'État alloué à l'éducation s'est considérablement réduit au cours de ces 5 dernières années. Les enseignants ne sont pas dans les salles de classe, résultat de cette réduction budgétaire également. Donc je pense que ce que les deux ministres viennent de dire met l'emphase sur l'urgence des pays de se prendre en charge d'abord. Oui, c'est vrai, je suis bailleur de fonds. C'est vrai que pour le Niger en particulier, on a aussi décaissé 7 millions, mais le ministre l'a dit, il faut un effort national et les curseurs doivent rester autour de ces 20% que les pays doivent allouer au niveau de l'éducation. En Haïti aujourd'hui, nous faisons face à un dialogue délicat, difficile entre le gouvernement et les partenaires sociaux, je parle en particulier des syndicats d'enseignants. Donc, il y a un grand défi qui est double triple calendrier scolaire où certains groupes d'élèves ont déjà démarré l'année scolaire 2020-2021 et où d'autres élèves parmi les plus vulnérables aujourd'hui ne savent pas comment ils vont terminer l'année scolaire 2019-2020. Cela crée une base d'instabilité et je pense que c'est quelque chose qui doit être résolu dans le dialogue, dans les meilleurs temps possibles, parce que la COVID-19 est venu déstabiliser davantage en Haïti des problèmes structurels qui existaient au niveau de l'éducation.
Haïti a un système particulier où on a 80% des écoles qui sont privées. Qu'est-ce que finalement la pandémie nous enseigne sur des systèmes de ce type aujourd'hui ?
C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'Haïti et le Liban, ils sont les deux pays, à ma connaissance, hein, qui ont pu effectivement permettre... par manque d'investissement ou par choix, je ne sais pas, que le privé occupe plus de 70% de l'offre scolaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand les ménages qui financent ce secteur privé n'a pas tout à fait les moyens de continuer à le faire, donc il y aura une migration forcée de ce privé vers un public qui n'a pas les moyens de les accueillir. Et le pire, Emmanuel, dans tout ça, c'est que ces écoles privées sont menacées de faillite financière. Parce que quand les parents ne peuvent pas continuer à payer au même niveau, et quand ces écoles ne pourront pas faire les investissements minimaux qu'il faut pour rester dans les normes et les standards, par exemple pour les questions d'hygiène, les questions d'assainissement, les questions de protocole sanitaire, et la nouvelle demande sociale de connectivité, quand ces écoles privées, beaucoup ne pourront pas le faire, eh bien certains seront réduits à la faillite, et aujourd'hui, difficilement l'État haïtien pourra subventionner ces écoles privées parce qu'elle a la responsabilité première de remonter son budget pour l'école publique. Et je pense que ce sont des défis de taille qui interpellent aujourd'hui les acteurs.
Sans parler des enseignants dans ces écoles privées qui, du coup, ne touchent pas leur salaire contrairement aux enseignants du public et donc qui ne peuvent plus eux-mêmes financer l'éducation de leurs propres enfants. On se retrouve dans un cercle vicieux.
Absolument. Et je pense qu'avec une inflation à deux chiffres, plus que deux chiffres, qui commence par deux, autour de 20%, on voit un peu ce que ça fait au niveau de la pression que ça met au niveau du pouvoir d'achat de tout le monde aujourd'hui. Et c'est ce qui rend un peu difficile le dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, je pense que ce sont des sujets qui ne peuvent plus être tabous, qu'il faut être autour d'une table pour discuter de ceci, parce que COVID-19, en même temps, c'est une opportunité, comme je disais, pour réformer nos systèmes. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut un dialogue social. Il faut une capacité à mobiliser aujourd'hui l'ensemble de la communauté éducative. Les gouvernements n'ont pas seuls les réponses. Je pense que les parents sont rentrés de plein pied. J'ai entendu la question des parents, des questions extrêmement intelligentes, des questions extrêmement pressantes sur comment nos enfants vont continuer à apprendre.
Il y a une vraie pression à l'heure actuelle de la part des familles. En tout cas, vous avez écrit une tribune pendant le confinement, Nesmi Maniga. Nous disposons déjà d'un vaccin pour la prochaine pandémie. Ça s'appelle l'école, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à vous tous. Et on se retrouve demain chez 7 milliards de voisins. On donnera la parole à des mamans sous pression cette rentrée parce qu'il faut tout assumer, la famille, le travail et l'incertitude des temps à venir. Notre WhatsApp est noté sur nos réseaux sociaux. À demain.